Laudetur Jesus Christus.
Israël menace d'agir avec une force maximale sur de nouvelles zones de la bande de Gaza. Depuis 8 jours, Tsahal pilonne l'enclave, entravant également l'action des ONG sur place. Témoignage du Norwegian Refugee Council au début de ce journal. Bachar al-Assad parti, les Syriens peuvent commémorer le début de leur révolution, c'était il y a 14 ans. Le cas notamment à Daraya, un quartier de Damas qui a durement payé son opposition à l'ancien président. Reportage à suivre dans ce journal. À la une également, le journal américain The Atlantic qui publie les conversations de hauts responsables de sécurité de l'administration Trump suite à une faille sécuritaire. Et puis nous irons en Éthiopie avec ce qui peut être le signe d'un apaisement dans la région du Tigré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a confirmé aujourd'hui le départ du président de l'administration intérimaire de cette région.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou, qui a repris ses offensives il y a 8 jours, a promis ce mercredi la saisie de plus de territoires tant que le Hamas n'aurait pas libéré tous les otages israéliens. Les frappes de ces derniers jours ont tué au moins 830 personnes selon le ministère local de la Santé. Une situation intenable pour de nombreux Gazaouis, mais aussi pour les nombreuses ONG qui travaillent sur le terrain. Depuis le 2 mars, aucun bien, aucune denrée ou matériel humanitaire ne peut rentrer dans l'enclave palestinienne. Gavin Kelleher coordonne les accès humanitaires à Gaza pour l'ONG Norwegian Refugee Council. Il explique que les entraves à cette action humanitaire n'ont jamais été aussi importantes.
Lors des hostilités, avant le début du cessez-le-feu, les organisations humanitaires pouvaient partager à Israël en amont leurs mouvements afin d'aider Israël à remplir ses obligations de droit humanitaire international. Depuis la fin du cessez-le-feu, cependant, les troupes israéliennes nous disent désormais qu'elles n'ont plus besoin de recevoir les informations concernant nos déplacements dans la bande de Gaza. Ils refusent de nous donner une reconnaissance formelle signalant qu'ils connaissent nos déplacements, qu'ils savent que, demain, je vais monter dans ma voiture, me rendre sur un site de déplacés et apporter de l'assistance. Et cela malgré la violence inouïe et sans discernement à Gaza, malgré aussi nos demandes persistantes pour qu'ils réactivent ce système de notification humanitaire. Un autre aspect, ce sont nos installations humanitaires. Nous partageons toujours les localisations en amont. C'est ce que nous avons toujours fait à Gaza. Israël reconnaît leur existence et pourtant, elle continue d'être prise pour cible. Nous sommes voués à l'échec. Nous n'avons jamais pu faire entrer assez d'aide. Nous ne pouvons pas nous déplacer en toute sécurité et nous n'arrivons pas à répondre correctement aux besoins des gens.
Gavin Keller du Norwegian Refugee Council, propos recueillis par Alexandra Sirgan. A noter aussi ces slogans anti-Hamas brandis par certains habitants à Gaza. Des centaines de personnes se sont réunies ce mercredi à Gazaville au cri de Hamas dehors. Une manifestation similaire avait lieu hier à Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien. Dans le même temps, côté israélien, la mobilisation de la rue se poursuit contre Benjamin Netanyahou, accusé de fuite en avant autoritaire. Des manifestations se multiplient dans le pays pour protester contre le limogeage de Ronen Bar, l'ancien patron du Shin Bet, les services de renseignement extérieur. Ce mercredi, le Premier ministre israélien a accusé l'opposition d'alimenter l'anarchie lors d'une session houleuse à la Knesset, le Parlement israélien. Une nouvelle tournée au Liban pour l'émissaire spécial français Jean-Yves Le Drian. L'ancien ministre des Affaires étrangères a rencontré aujourd'hui le président Michel Aoun et réaffirmé le soutien de la France au pays du Cèdre dans la stabilisation au sud et la reconstruction du pays. Paris, pardon, qui est avec Washington, garant de l'accord du cessez-le-feu conclu le 27 novembre dernier entre Israël et le Hezbollah. Une trêve violée de maintes fois depuis cette date, en particulier par l'État hébreu. En Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, la population fête l'anniversaire du début de sa révolution. C'était il y a 14 ans. Depuis quelques semaines, des célébrations sont organisées à travers le pays. Hier soir, c'était à Daraya, un quartier de la banlieue sud de Damas, symbole des soulèvements pacifiques de mars 2011. Le reportage de notre correspondante sur place, Manon Chaplin.
Une estrade a été montée au milieu d'immeubles éventrés par les bombes. Des chants révolutionnaires, des drapeaux de la nouvelle Syrie et ses habitants venus par centaines fêter l'anniversaire de la révolution dans ce quartier martyr de la guerre. Issam est de retour après 5 années d'exil.
Que voulez-vous de mieux ? La joie de voir notre quartier libéré ? Je ne partirai plus.
Daraya, à une dizaine de kilomètres au sud de Damas, est l'un des berceaux de la révolution de 2011. C'est dans ces rues aujourd'hui réduites en date grava qu'ont été organisées les premières manifestations pacifiques contre le régime. régime. À l'époque, Ibrahim avait seulement 17 ans.
Quand tout a commencé ici, nous avions déjà pour but de faire tomber le régime. Nous étions organisés en comité civil, nous faisions tout pour que les Syriens se tiennent par la main et pour protéger la population.
Les habitants paieront ces manifestations par le sang, des massacres, une attaque chimique et un siège qui durera 4 ans. Ahmed, 77 ans, est resté bloqué dans son quartier tout ce temps.
Chaque heure, nous attendions que la mort vienne à nous. Les bombes, les explosions, la souffrance, il n'y avait même plus de nourriture. Il y avait seulement des tanks, des véhicules militaires et des hommes armés. Nous ne pouvions ni entrer ni sortir.
Radija est venue fêter la chute du régime, mais sa joie ne peut être que partielle, dit-elle.
7 membres de ma famille ont disparu et je ne sais rien d'eux. Je les ai cherchés partout. Nous espérons vraiment que le nouveau gouvernement saura aider tous les Syriens dans ses recherches.
Au milieu des feux d'artifice, une femme lève une rose. Il y a 14 ans, explique-t-elle, c'est avec ce même geste que tout a commencé. Mais à l'époque, son fils, 16 ans, s'était fait arrêter. Adaraya, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le président ukrainien Zelensky est arrivé cet après-midi à Paris. Il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron lors d'un dîner de travail ce soir pour préparer le sommet de demain. Une nouvelle rencontre en soutien à l'Ukraine. Une coalition des volontaires, comme elle est appelée, rassemblera une vingtaine de pays prêts à soutenir Kiev en envoyant si besoin des troupes pour superviser un éventuel cessez-le-feu. Dans le même temps, la question du réarmement de l'Europe face à la menace russe est sur de nombreuses lèvres. Elle concerne notamment la Suède. Stockholm a annoncé ce mercredi augmenter ses dépenses pour sa défense à hauteur de près de 30 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Aux États-Unis, le magazine The Atlantic riposte face à la Maison-Blanche et aux accusations lancées par l'administration Trump à son encontre. Lundi, le rédacteur en chef de ce journal révélait avoir été invité par erreur dans un groupe de discussion hautement confidentiel en présence de très hauts responsables. Jeffrey Goldberg disait avoir eu accès à des détails concernant une attaque menée contre les rebelles houthis du Yémen, des plans que son journal vient de publier. À New York, Loïc Loury.
Jeffrey Goldberg, jusque-là, s'était refusé à publier des informations a priori sensibles. C'est désormais chose faite. Façon de répondre aux tentatives de l'administration, écrit son journal, de minimiser l'affaire. Dans ce second article, The Atlantic dévoile donc l'intégralité des échanges menés sur ce fameux groupe de discussion, et en particulier les messages de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Dans un style télégraphique, il partage les horaires précis des raids menés contre les Houthis, parfois le type d'avions et d'armes employés. L'un de ses collègues évoquant même une cible de ces attaques, un homme qui rejoignait sa petite amie et dont l'immeuble a été bombardé. Ce n'était donc pas des plans de guerre, a réagi la Maison Blanche. Ces révélations étaient survendues, dit le vice-président. Mais l'humiliation est totale et elle confirme aussi l'inexpérience d'un certain nombre de hauts responsables de l'entourage de Donald Trump. New York, le Éclairé, Radio Vatican.
Le Brésil attendait le verdict de la Cour suprême ce mercredi. Il est tombé tout à l'heure un procès contre l'ancien président Jair Bolsonaro pour un projet présumé de coup d'État aura bien lieu. Nous y reviendrons en détail demain matin. Et puis peut-être un signe de détente de la part du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il a confié aujourd'hui le départ du président de l'administration intérimaire dans la région du Tigré. Une annonce qui pourrait apaiser un temps cette région où de nombreux observateurs redoutaient une nouvelle guerre. À Addis Abeba, Augustine Passy.
Il est devenu nécessaire de nommer un nouveau président pour l'administration intérimaire du Tigré, a déclaré Abiy Ahmed ce matin. Le premier ministre d'Éthiopie entérine ainsi le départ de Getachew Reda, demande phare du chef du Front de libération du peuple du Tigré, Debretsion Gebremichael. Les deux hommes politiques tigréens se renvoient la responsabilité du retard de la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, qui a tourné la page en novembre 2022 à 2 années de combats meurtriers. L'ouest de la région reste en effet occupé par les troupes Amhara, tandis que le nord-est demeure sous contrôle des forces érythréennes. Cette situation empêche 1 million de déplacés de rentrer chez eux. La démobilisation des anciens combattants des forces de défense du Tigré peine également à démarrer puisque seuls 6 000 ex-soldats ont bénéficié de ce programme sur un effectif total de 274 000. Dans ce contexte, le Premier ministre a aussi révélé son intention de prolonger le mandat des autorités intérimaires d'un an. La désescalade entre Getachew Reda et Debretsion Gebremichael était déjà entamée depuis le départ du premier en direction d'Addis Abeba mi-mars. Pour lui succéder, son rival propose le chef des forces de défense du Tigré, Tadesse Ouerede. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur vaticannews.va. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30 en direct de Rome pour un nouveau point complet sur l'information. Excellent après-midi et bonne soirée à tous.